Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Comprendre l'invisible de la matière et prouver l'existence des atomes, c'est la mission assez peu évidente à laquelle s'est attelé parmi d'autres le physicien Jean Perrin. Son livre « Les atomes » paru en 1913 a mis fin à un très vieux débat entre défenseurs et pourfendeurs de la théorie atomiste. Par quelles expériences et grâce à quel talent de vulgarisateur a-t-il réussi à démontrer l'existence de cette structure infime ? Science Chrono part aujourd'hui aux côtés de Jean Perrin à la recherche de l'invisible. Bonjour Charles-Antoine.
Bonjour.
Vous êtes physicien, maître de conférences au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à Sorbonne Université. Vous venez tout juste d'être nommé ambassadeur médiation scientifique du CNRS pour l'année 2025, une année importante pour l'histoire,
l'histoire de
100 ans du quantique. Vous êtes l'auteur notamment de Schrödinger à la plage aux éditions d'Uno et vous venez de préfacer aux arènes le livre Les maîtres de l'atome de Tobias Hurter. Merci mille fois d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous raconter l'histoire de cette quête rocambolesque de l'atome et de ce livre « Les atomes » de Jean Perrin, qu'on peut lire aujourd'hui dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Avant de nous pencher sur cette histoire, je vous annonce le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, on se demandera avec le journaliste Pedro Lima à quoi pouvait bien ressembler l'existence des enfants au paléolithique supérieur il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et on verra qu'on en découvre chaque jour un peu plus sur leur place dans les groupes humains. Mais avant ça, on revient à cette histoire passionnante des atomes et au rôle qu'a joué le physicien et chimiste français Jean Perrin dans cette validation de la théorie atomiste. Et on commence avec notre archive du jour. On écoute la voix du protagoniste de cette émission, Jean Perrin, qui, le 26 mars 1938, parlait sur Radio 37 de son rôle de sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique.
Le sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique a dans ses attributions, comme vous le savez, le service central de la recherche scientifique qui a été organisé conformément au texte d'une loi des finances que j'ai eu la bonne fortune de faire voter à la fin de 1936. Ce service coordonne tous les efforts qui sont faits dans le domaine des sciences pures. Il est en liaison constante avec la Caisse nationale de la recherche scientifique que je considère un peu aussi comme mon enfant. Grâce à la Caisse et au crédit dont elle est dotée, les savants peuvent se consacrer essentiellement à la recherche. Jadis, ils étaient obligés souvent pour vivre de se livrer à d'autres travaux qui leur prenaient un temps précieux. Ils ne pouvaient pas se consacrer complètement à leur laboratoire et il en résultait un préjudice évident pour les progrès de la science. Certains chercheurs en particulier étaient obligés de faire des cours dans diverses institutions publiques ou privées. Or, il est évident qu'un savant peut être doué pour la recherche sans être capable d'enseigner. Il est forcément infiniment rare pour un homme de posséder en lui toutes les qualités d'un chercheur et d'un pédagogue. Néanmoins, la France s'enorgueillit d'exceptions illustres à cette règle. La Caisse nationale de la recherche scientifique a formé une équipe de jeunes et elle a aussi doté de matériel nouveau un très grand nombre de laboratoires. Je ne veux pas parler de la Caisse nationale sans citer le nom d'un de ses boursiers, mon ami Frédéric Joliot, professeur au Collège de France. Lui et sa femme, Irène Joliot-Curie, qui a occupé les fonctions de sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, sont les deux plus jeunes prix Nobel du monde.
Voilà Charles-Antoine, on s'est un tout petit peu éloigné de notre sujet du jour, les atomes, mais on s'est dit qu'on avait la chance d'avoir cette archive assez rare de la voix de Jean Perrin, alors que voilà, quand on peut faire entendre les acteurs de l'histoire des sciences, on le fait directement. Comment vous recevez cette voix-là, un peu désuète, avec ce timbre un peu délicat, jeune quasiment, de Jean Perrin, et qu'est-ce que vous retenez de cette intervention de la fin de la vie finalement de Jean Perrin?
Alors c'est un extrait qui est vraiment révélateur et représentatif de ce que pouvait être Jean Perrin, surtout dans la deuxième partie de sa vie, concernant donc la transmission et son rôle de bâtisseur. Et quand il dit qu'il existe de temps en temps des éminents scientifiques qui sont à la fois pédagogues et de très bons chercheurs, et bien sûr, par humilité, il ne pense pas à lui, mais en fait, il remplit tout à fait ce double rôle-là, comme on pourra le voir. Et donc, on est en 1938, donc on est dans la période du Front populaire. Jean Zay est ministre, le ministre qui est quelqu'un d'exceptionnel, hein, qui a vraiment donné une impulsion incroyable au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur et de l'éducation en France. Et donc, Jean Perrin va avoir un rôle très important. Donc, il est né en 1870, Jean Perrin. Donc, en 1936, il est déjà dans une autre partie de sa vie. Il a déjà 66 ans. Et dans cette archive, on le voit, on entend cette, comme vous disiez, une voix juvénile, mais pleine d'espoir. On a l'impression que c'est un adolescent encore plein d'émerveillement dans le son de sa voix et dans la tête. Et donc, en 1938, ça fait déjà un an qu'il a co-créé le Palais de la Découverte. Il est en train de poser les fondations du futur CNRS qui ouvrira donc fin 1939. Et donc, c'est un extrait touchant, émouvant, parce que on sent déjà beaucoup de choses de cet homme admirable et trop peu connu.
Très peu connu, voilà, plus connu finalement pour son rôle moteur dans la fondation du Palais de la Découverte et dans la cofondation du CNRS, et pas tant pour ce travail-là assez capital de synthèse finalement des théories et des expériences concernant les atomes. Alors on va revenir justement à ce sujet des atomes au tournant du XXe siècle. C'est vraiment un débat qui est très chaud, mais c'est pas un débat qui date d'hier. La théorie atomiste, elle est présente dans l'histoire des sciences depuis l'Antiquité. Nous, on a une représentation de l'atome qui est celle d'un noyau avec des électrons qui orbitent autour de ce noyau-là. Cette image-là, elle était totalement absente des conceptions scientifiques du début du XXe siècle. Quelle image on se faisait depuis l'Antiquité d'un potentiel atome ?
Alors, cette image d'un mini-système solaire miniature, on l'a tous en tête, et en fait, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, elle est fausse, même si elle est pratique. Mais oui, cette question des atomes remonte, cette question de la nature intime de la matière, c'est-à-dire quelles sont les briques fondamentales de la matière, et si ça existe vraiment. Quelle est la réalité de ces briques fondamentales? Ça remonte à très loin. Alors, on a une vision assez occidentale des choses, où on va plutôt faire remonter ça donc à Démocrite et les présocratiques. Il faut savoir que 4 à 5 siècles avant, il y avait les mêmes réflexions dans l'Inde ancienne. Moi, je suis assez intéressé.
C'est important, bien sûr, de pas être européocentré.
Exactement. Et donc, dans cette antiquité, il y avait cette question, donc qui relevait évidemment plus de la philosophie, de savoir s'il y avait des grains ultimes de matière et si on pouvait typiquement diviser indéfiniment quelque chose en deux, le couper indéfiniment en deux. Et par des raisonnements philosophiques et logiques, hein, de pure logique, beaucoup de scientifiques, alors on peut pas les appeler comme ça, cette notion-là était un peu inconnue à cette époque-là, mais en tout cas de philosophes intéressés par les sciences naturelles qu'ils pouvaient avoir autour d'eux, se posaient cette question. Et en venait à la conclusion naturelle que pour éviter sorte de problème des infinis, eh bien qu'il fallait qu'il y ait des briques élémentaires. Et donc au cours des siècles, cette idée a fait son chemin avec des hauts et des bas, des périodes où on a oublié un petit peu cette notion-là. Et donc le renouveau de la science en Occident, donc en termes de Renaissance et après, donc à partir du 16e, 17e siècle, donc avec des travaux typiquement de Lavoisier, et puis après on va continuer en parler, mais de cette notion d'atome qui a repris une plus grande réalité, mais il a fallu attendre donc cette fin du 19e siècle et ce début du 20e siècle, et en particulier les travaux de Jean Perrin, travaux expérimentaux, mais aussi réflexion et capacité d'exposer au monde ces travaux sur la réalité des atomes pour montrer au monde que ces atomes étaient bien réels, bien qu'ils soient invisibles.
On va voir, alors bien sûr, on pourrait faire 1000 émissions sur l'évolution de la conception de l'atome depuis l'Antiquité. Nous, on va se concentrer sur le 19e siècle et ce tournant du 20e siècle. On peut peut-être déjà poser une question simple, c'est le fait que s'interroger sur une nature infime de la matière et se dire que finalement on va accéder à l'invisible, c'est une question qui, pour certains qui critiquent l'idée de l'atome, relève plus de la métaphysique que de la physique.
Complètement, ça c'est quelque chose, en cette fin du 19e siècle, donc au 19e siècle, il y a eu donc Dalton, l'un des pères de la théorie atomique moderne, mais aussi donc Avogadro, donc on peut en reparler parce que Jean Perrin s'est intéressé à mesurer, en tout cas non seulement à mesurer, mais à faire un peu une sorte de bilan de toutes les mesures possibles de ce fameux nombre d'Avogadro, qui est directement lié à la notion d'atome. Mendeleïev aussi, le russe, qui a fait ce fameux tableau qu'on a tous vu dans nos salles de classe, des différents atomes. plutôt.
Tableau périodique, oui.
Tableau périodique des éléments, exactement. Et donc, en cette fin du 19e siècle, il y avait vraiment une tension très forte, à tel point que Boltzmann, l'un des pères de la physique statistique, c'est une des branches de la physique très importante, qui essaye de décrire ce qui se passe quand on a une grande assemblée de particules, que ce soit des atomes ou autre chose, et des cellules, des molécules, des gens. La physique statistique est très, très versatile dans ses applications. Et donc, ce grand Boltzmann s'est même suicidé en 1906, donc quelques années seulement. Et il aurait attendu ne serait-ce que 2 ans.
Ouais. Il avait les résultats de Jean Perrin.
Il avait les résultats de Jean Perrin. Il aurait été réconforté. En tout cas, bien sûr, il ne s'est pas suicidé que pour ça. Mais ça a beaucoup pesé dans la balance parce que Boltzmann, qui était donc l'un des pères de cette physique statistique qui repose essentiellement sur la notion d'atome, se voyait contesté par des grands pontes, des grands maîtres de l'époque, dont par exemple Ernst Mach, Henri Poincaré, Wilhelm Ostwald, des grands noms qui remettaient en cause cette réalité des atomes. La réalité physique, elle ne remettait pas en cause la réalité philosophique, mais la réalité physique, avec une objection qui relevait du positivisme, en fait. Positivisme forcené de ce 19e siècle, dans la suite d'Auguste Comte, qui était qu'on ne pouvait considérer que des choses qui étaient observables et mesurables directement. Donc, ça a tout de suite posé une question très importante de l'invisible. Alors pas de l'invisible qu'on ne voit pas parce que c'est pas dans les bonnes couleurs, par exemple l'infrarouge, l'ultraviolet, on le voit pas, mais on peut le mesurer directement. Donc il y a un invisible parce que qui est imperceptible à nos sens, mais qu'on peut mesurer, qu'on peut voir d'une certaine façon avec des appareils, et il y a un invisible qu'on ne peut pas voir tout court, avec aucun appareil. C'est-à-dire qu'on ne peut y avoir accès qu'indirectement. Et les atomes, c'est-à-dire des choses qui étaient plus petites. Les atomes sont plus petits que la plus petite chose qu'on peut voir. Donc inaccessibles à nos sens et inaccessibles par nature, c'est-à-dire invisibles par nature. Et donc, ces atomes posaient cette question de la réalité dans notre monde de choses invisibles par nature.
Et de la mesure aussi qu'on peut en faire et comme vous le dites, de l'observation. Il y a aussi cette idée, Charles-Antoine, du fait que, à cette époque, on s'intéresse finalement plus à l'infiniment grand que l'infiniment petit, parce qu'on peut se dire que, une fois qu'on aura finalement découvert l'atome, peut-être même observé l'atome, on n'y pense pas, mais voilà, on se dit que c'est un cul-de-sac finalement, et qu'on aura découvert cet atome, on l'aura vu. Bon, voilà. Et ça n'apportera finalement pas grand-chose. C'est ce qu'on se disait.
Exactement, il y avait donc ce débat donc qui partageait vraiment la société, hein, des scientifiques. Il y avait à peu près la moitié des grands, en tout cas des grands noms. Il y avait aussi une opposition de génération. Il y avait la moitié des grands noms de la science ou en tout cas de la physique qui s'opposaient à une réalité physique des atomes. Mais il y avait aussi donc cette question de la réalité de ces mondes invisibles et donc de cette, comme vous disiez, de cette impression de cul-de-sac, c'est-à-dire de se dire, une fois qu'on va atteindre les briques élémentaires de cette matière, on va pouvoir les caractériser, on va pouvoir peut-être expliquer plus correctement ce fameux tableau périodique de Mendeleïev, mais c'est tout. Et en fait, en 1895, donc la découverte des rayons X, mais surtout en 1896 avec Becquerel, et encore plus en 1897 avec deux grandes découvertes, l'électron par Thomson, mais surtout par les époux Pierre et Marie Curie, la compréhension de cette radioactivité naturelle, et c'est ça, en fin de compte, aujourd'hui, on n'a pas forcément conscience de pourquoi Marie Curie était aussi célèbre, parce qu'on dit Marie Curie, voilà, elle est liée à la radioactivité. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont le nom de Marie Curie. Alors moi, je suis dans l'université Pierre et Marie Curie, donc Sorbonne Université, mais voilà, il y a une rue Marie Curie, mais à l'étranger, bizarrement, elle est beaucoup plus connue, beaucoup plus célèbre qu'en France. Et en fait, Marie Curie a été l'une des premières, si ce n'est la première, à comprendre que ce monde des atomes, que cette radioactivité, donc cette énergie, ce rayonnement qui était issu de la matière, venait réellement de l'intérieur des atomes. Et que ces atomes qu'on pensait être briques indivisibles, comme leur nom l'indique, ces atomes héberger des mondes. C'est-à-dire que ces atomes n'étaient pas une sorte de cul-de-sac, mais qu'ils étaient des portes en eux-mêmes vers des mondes aussi grands que cet infiniment grand vers lequel on pointait nos télescopes et nos yeux vers le cosmos. Et donc ça, vraiment, comme avait une forme de diabolo, de sablier, comme ça, avec deux infinis, donc l'infiniment grand du cosmos, et cet infiniment grand, on pourrait dire un infiniment grand énergétique, qui était caché dans les arcanes de la matière et dans les atomes eux-mêmes.
Pour bien comprendre Charles-Antoine l'apport de Jean Perrin, on est obligé de parler de ses prédécesseurs, parce que bien sûr dans l'histoire des sciences, on n'est jamais seul à faire une découverte ou à prouver l'existence par exemple des atomes. Jean Perrin lui s'est appuyé sur des travaux de ses prédécesseurs. Vous parliez d'Avogadro, on pourrait parler de Brown aussi. Alors ces deux figures-là, comment elles ont contribuer finalement à conduire Jean Perrin à démontrer de façon plus indéniable l'existence des atomes.
Alors, en 1907-1909, avec un article célèbre paru en 1908, donc par Jean Perrin, ce qu'a fait Jean Perrin, c'est qu'il a réalisé expérimentalement ce qu'avait proposé Einstein en 1905. Donc Einstein, en 1905, dans son année miraculeuse où il a révolutionné la physique, il a révolutionné l'espace et le temps avec la relativité, le lien entre matière et énergie avec le fameux E égale MC2, l'effet photoélectrique avec son explication qui a, d'une certaine façon, lancé un peu plus directement la naissance de la physique quantique, et puis donc cette explication du mouvement brownien. Le mouvement brownien, donc de Brown, c'était en 1827, c'était un Anglais.
Un biologiste,
et qui a observé le mouvement erratique, aléatoire, donc au hasard, de tout petits grains, donc lui c'était des grains de pollen, mais on pourrait imaginer ça avec Perrin. Perrin l'a fait avec des choses, voilà, des petites boules de résine, etc. Donc des choses toutes petites, mais encore pas assez petites pour être invisibles. Donc suffisamment petites, mais encore visibles. Et donc Brown, ce qu'il a observé, c'est un mouvement donc erratique, aléatoire. Et donc ça a été très compliqué d'arriver à comprendre d'où venait ce mouvement aléatoire pour des petites choses qui étaient visibles encore. Et donc Einstein, ce qu'il a proposé, c'est que ce mouvement des particules petites mais encore visibles était dû à leur choc par des particules qui étaient invisibles, les fameux atomes. Donc ce mouvement aléatoire qu'on pouvait voir était dû à un mouvement, également aléatoire d'ailleurs, mais invisible. Mmh. Et donc que ce mouvement brownien était directement associé à l'existence des atomes en eux-mêmes et à ce qu'on appelle l'agitation thermique. Donc je parlais de Boltzmann, c'est vraiment une des branches, en tout cas une des applications directes de la fameuse physique statistique, c'est-à-dire d'arriver à expliquer les grandeurs à notre échelle, à notre taille, typiquement les grandeurs thermodynamiques, la pression, la chaleur, etc., en termes d'agitation des atomes ou des molécules au niveau invisible.
En termes de chaleur, voilà.
Exactement. Et donc, d'ailleurs, Jean Perrin, il avait une formule. Il disait que les atomes, l'atomistique, c'était simplement d'arriver à expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple.
Ça, c'était son mot d'ordre. Et tout le monde disait, Jean Perrin n'arrêtait pas de dire
exactement.
Ça. Exactement. C'est assez beau comme formulation et c'est très éclairant sur son approche. Alors là, on a bien compris que, moi, je trouve ça assez beau aussi ce pont entre biologie et physique, chimie, voilà, qui se crée avec ce mouvement brownien. On parlait d'Avogadro aussi, le fameux nombre d'Avogadro qui a marqué aussi l'histoire des sciences et qui a, contribué aussi à calculer Jean Perrin. Alors, comment on peut définir ce nombre-là et qu'est-ce que ça représente comme matérialité?
Alors, le nom d'Avogadro, alors il a jusqu'à 2019, il avait une définition commune que tous les gens, j'imagine, qui écoutent à la radio ont en tête s'ils ont vu ce nombre d'Avogadro dans leurs études. Et puis depuis 2019, il y a eu un petit changement. En fait, pour dire les choses très simplement, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans un gramme de matière. C'est tout simple. Il y avait une définition plus précise en termes d'atomes dans 12 grammes de carbone 12, etc. Mais pour faire simple, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans un gramme. Donc un gramme, c'est très petit, c'est très léger. Et ce nombre d'Avogadro est immense. C'est un peu plus de 6.
23.
Voilà. C'est... Donc comme ordre de grandeur, c'est le million de milliards d'atomes dans un gramme de matière. Et donc Avogadro, quand il a introduit ce nombre-là, eh bien, ça mettait un lien direct entre l'invisible de l'infiniment petit et le visible de notre monde à nous. Et donc Jean Perrin, ce qu'il a fait, c'est essentiellement donc à travers son travail, donc dans la suite, dans la directe lignée de la proposition d'Einstein de 1905, entre 1907 et 1909, donc il a travaillé sur ce mouvement brownien.
Il a fait ce qu'Einstein n'avait pas fait, c'est-à-dire des expériences.
Exactement.
Einstein avait juste fait, il avait postulé théoriquement tout ça.
Exactement. Einstein était théoricien, Jean Perrin était expérimentateur, mais en fait à cette époque-là, dire qu'il était expérimentateur, c'était peut-être un petit peu réducteur, parce qu'à cette époque-là, tous les expérimentateurs avaient un niveau en théorique. Mais également aujourd'hui, hein, c'est pareil, quand on parle d'un collègue qui est expérimentateur, il peut y avoir un côté dénigrement, alors qu'en fait, ils ont un niveau d'abstraction et un niveau sur la physique théorique qui est très élevé. Et donc, ce qu'il a fait, donc lui, il s'est plus intéressé au mouvement brownien, mais dans son fameux livre de 1913, dont on fête les 111 ans aujourd'hui, dans ce fameux livre, il a fait une liste, donc des 1913, donc 13 méthodes différentes de mesurer ce fameux nombre d'Avogadro, parce que, si on a une mesure précise du kilo, ce qu'on avait depuis la Révolution française avec ce fameux étalon du kilogramme, on pouvait déterminer le nombre d'Avogadro qui, donc, disait combien il y avait d'atomes dans un kilo, ou plutôt dans un gramme, ça c'est le nombre d'Avogadro. Et donc, dans ce livre de 1913, Jean Perrin a fait vraiment la liste de toutes les méthodes, donc en particulier avec le mouvement brownien, sous plein de façons différentes, hein, la répartition, la rotation, la diffusion, la sédimentation, etc., etc. Mais aussi avec la radioactivité, qui fait intervenir donc ce nombre d'Avogadro, le rayon, ce qu'on appelle le rayonnement de corps noir, mais aussi la viscosité, l'opalescence critique, etc. Plein de techniques différentes. Et alors pas les 13, mais 10 sur les 13 donnaient un nombre tellement concordant de ce nombre d'Avogadro que pour quand son livre est paru, donc déjà son article en 1908, mais surtout ce livre en 1913 qui a été vraiment un succès dans la communauté scientifique, il a fini de convaincre tous les sceptiques.
Oui.
Vraiment, ça a été vraiment...
Ça avait commencé un petit peu avec le congrès de physique de Solvay en 1911,
exactement.
Où là, Henri Poincaré, qui était un pourfendeur de la théorie atomiste, s'est rendu finalement à la théorie de Jean Perrin en disant que j'admets l'existence des atomes.
Quand vous avez, c'est vraiment comme un détective. Il a vraiment eu vous savez, on fait la différence entre la démarche un peu à la manière d'un avocat ou la manière d'un détective par rapport aux preuves, etc. Vraiment, Jean Perrin, il a vraiment eu cette démarche de détective et il s'est dit, ok, une preuve, ça va pas convaincre les gens, deux non plus, je vais leur en sortir 13. Mmh. Et quand on a 13 preuves de culpabilité de quelqu'un, pour un juré, c'est difficile.
C'est accablant.
Exactement. Il a vraiment joué sur cet effet-là psychologique même.
Comment on peut décrire ce livre, Les Atomes ? Parce qu'on parle souvent, on le décrit comme un livre de vulgarisation scientifique. Est-ce que, c'est un livre si vulgarisé que ça ? Comment il s'organise ? Comment il se présente ? Comment Jean Perrin se fait lui aussi promoteur de cette théorie des atomes auprès d'un public plus large que celui des seuls spécialistes ?
Alors en fait, comme on l'entendait dans l'archive, Jean Perrin, c'était un pédagogue hors pair, un communicateur, un passeur de science. Moi, j'aime bien ce terme de passeur de science. Et dans ce livre-là, mais on a observé la même chose pour d'autres scientifiques de l'époque, et aussi des artistes comme Kandinsky ou Duchamp, qui à l'époque expliquaient ce qu'ils faisaient avec des mots, donc dans un livre, mais sans simplifier de façon trop importante ce qu'ils pouvaient faire. Et donc ce livre, Les Atomes, il peut parler à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est nourri par ce livre, aussi bien les scientifiques, les spécialistes, que le grand public. Et donc son livre était juste une sorte d'état de l'art sur les atomes, sur l'existence et la réalité des atomes, mais destiné à tous les publics. Mmh. Et c'est inspirant aujourd'hui pour nous qui sommes plus ou moins impliqués dans la transmission des savoirs et la médiation scientifique, de voir à quel point il y avait un respect de Jean Perrin pour tous ses publics. Et donc quand on lit ce livre, qui est tout à fait lisible aujourd'hui, et bien sûr, il y a des parties qui sont difficiles à comprendre. Quelqu'un du grand public qui ne connaît rien du tout à ça, il va y avoir des termes qui vont être compliqués, évidemment, mais d'une façon générale, 80% du livre va pouvoir être lu et compris. Et en plus, comme on en parlait hors antenne, c'est très bien écrit.
Oui. J'ai sous les yeux le début du premier chapitre, on dirait le début de Salammbô de Flaubert. Il dit, il y a 25 siècles peut-être, sur les bords de la mer divine, où le chant des aèdes venait à peine de s'éteindre, quelques philosophes enseignaient déjà que la matière changeante est faite de grains indestructibles en mouvement incessant, atomes que le hasard ou le destin auraient groupés au cours des âges selon les formes ou les corps qui nous sont familiers. Bon, là, je vous passe un peu la suite, mais il parle ensuite de tous ses ancêtres, donc de Démocrite, de Leucippe, de Lucrèce, même Lucrèce à qui on a consacré un Science Chrono. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cette dimension ultra-littéraire qui est très présente dans ce livre Les Atomes. Vous parliez tout à l'heure de sa réception. Je crois qu'il a été traduit assez rapidement dans beaucoup de langues. Mais on est en 1913 et ça, c'est assez intéressant parce que la grande histoire implique toujours l'histoire des sciences. On est un an avant la Première Guerre mondiale. Pour ce travail-là, pour ces travaux et ces publications entre 1907 et 1909 et ce livre Les Atomes, Jean Perrin aurait dû recevoir le prix Nobel. Simplement, il l'a sorti un an ou deux trop tard.
Oui, c'est vrai que c'est moi ça m'intéresse beaucoup les liens entre la science, l'histoire des sciences et la grande histoire et aussi les histoires des autres révolutions culturelles, les arts, la philosophie, etc. Et c'est vrai que moi qui suis passionné par la physique quantique, il y a eu la même chose en physique quantique au début des années 30 avec la montée du nazisme où l'histoire de la science et en particulier de cette physique quantique naissante est venue se fracasser sur l'histoire et a forcé les scientifiques à faire des choix cornéliens qu'il ne voulait pas faire a priori. Et donc Jean Perrin a été confronté à l'histoire. Et oui, il aurait publié, il aurait eu ses résultats, il aurait publié son livre Les Atomes peut-être un ou deux ans avant. Peut-être qu'il aurait eu le prix Nobel dans la foulée. Alors que là, il l'a eu donc en 1926, donc à un moment où c'était un peu la dernière chance pour lui parce qu'en 1926, donc là l'année prochaine, on va fêter donc le centenaire de la première formulation mathématique de la physique quantique en 1925 par Heisenberg, Born et Jordan. Et donc en 1926, il était un peu de l'arrière garde.
C'était déjà un boomer, quoi, d'une certaine
exactement,
façon.
Exactement, c'était le boomer de l'époque. Et donc, heureusement qu'il a été récompensé parce que il était pris dans cette révolution tous ces jeunes loups de la physique quantique qui étaient en train de révolutionner la physique une nouvelle fois, d'une certaine façon. Et c'est vrai que Jean Perrin, donc 1913, en 1911, donc il y a le congrès Solvay, c'est l'époque du premier modèle, du modèle planétaire de Rutherford. Alors pour la petite histoire, en fait, Jean Perrin l'avait déjà formulé en 1901, 10 ans avant, en 1901, il avait déjà proposé une formulation qui est quasiment une copie conforme de ce qu'ont proposé Rutherford en 1911 et Bohr en 1913 de ce modèle donc planétaire. Donc je le redis, faux dans notre modèle aujourd'hui, dans notre façon de voir les choses avec la physique quantique. Mais en tout cas, de ce modèle un peu avec des électrons qui orbiteraient autour d'un centre chargé positivement.
C'est quoi la bonne représentation du coup? C'est que ces électrons, on ne peut pas les voir, quoi. C'est
exactement. Ça. Selon la physique quantique, il n'y a pas d'orbite. On va parler d'orbital. Alors ce mot, il est terrible parce qu'il laisse penser à des orbites, mais non.
C'est un faux ami.
Un atome n'est pas un mini-système solaire miniature où le noyau jouerait le rôle du soleil et les planètes celui des électrons. Et non, et c'est vrai qu'on se bat aussi à l'université avec nos étudiants parce que quand un peu sous stress, ils peuvent revenir à ce modèle un peu simple. Qui peut être utile en première approche, mais qui n'est pas du tout réaliste du point de vue de ce que l'on sait expérimentalement et la façon dont on le décrit avec la physique quantique.
Ce qui est intéressant, donc on l'évoquait en début de discussion, c'est que Jean Perrin a pris un tournant beaucoup plus politique dans les années 30, au moment du Front Populaire, où il a été très engagé dans la création du Palais de la Découverte et la création du CNRS. L'ancien président du CNRS, Alain Fuchs, dont on a appris avec beaucoup de tristesse la disparition récemment, consacrait il y a quelques années un article au livre Les Atomes de Jean Perrin. Et dans cet article, il rappelait des passages de la conclusion du livre. Il disait, la découverte de l'inconnu doit être poursuivie sans préoccupation pratique, précisément si l'on veut en tirer de grands résultats. Et là, on sent que la philosophie scientifique de Jean Perrin a vécu quelque peu quand on voit aujourd'hui ce qu'on exige et ce qu'on attend des scientifiques en matière de résultats, d'application, d'efficacité d'une certaine façon.
Complètement. Et l'un des plus beaux exemples récents, c'est de voir que les applications aujourd'hui concrètes dans ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique en cours, donc à grands coups de téléportation quantique, de cryptographie quantique, d'ordinateur quantique, toute cette révolution technologique dans laquelle on est plongé en ce moment est issue de réflexions quasiment philosophiques des années 30. Je parlais tout à l'heure de ce début des années 30 pour la physique quantique qui a obligé les scientifiques à faire des choix. Eh bien, ça correspondait, cette période, donc début des années 30, à aussi une sorte de scission, de schisme au sein des scientifiques qui, pour certains, sont allés vers des applications plus technologiques, donc qui ont après ont débouché sur l'électronique, puis après l'informatique, etc. D'autres vers la physique des particules, donc à créer des accélérateurs de particules. D'autres vers l'énergie nucléaire, dont les Irène et Frédéric Joliot-Curie, dont parlait Jean Perrin dans l'extrait, qui ont amené donc Hiroshima aussi, Enrico Fermi, réaction en chaîne, et puis projet Manhattan et Hiroshima et Nagasaki. philosophie. Et puis d'autres sont restés dans le mode de pensée, donc les penseurs de cette physique quantique, directement dans la suite, dans la droite ligne de Jean Perrin, de Marie Curie, etc., qui pensaient la physique quantique à grands coups de chat Schrödinger, de paradoxe Perrin, etc., et d'intrication quantique. Et c'est ça qui a amené, donc 70 ans plus tard, cette révolution quantique. Et donc, Alain Fuchs et Jean Perrin étaient aussi de cette trempe-là, d'avoir cet émerveillement chevillé au corps et de voir que ce monde qu'on ne connaît pas encore, donc ces invisibles qu'on a déjà un petit peu détectés ou qu'on l'on va détecter, ces invisibles recèlent des mondes. Il y a un grand scientifique qui s'appelle Arthur Compton qui disait que en fait cette découverte de l'atome, c'est comme la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb. C'est un nouveau monde où tout est possible.
Tout est possible, on va rester sur ces mots-là. Merci beaucoup Charles-Antoine, je rappelle qu'on peut vous lire aux éditions d'Uno dans Schrödinger à la plage et le livre Les Atomes de Jean Perrin est quant à lui disponible en poche dans la collection Biblis des éditions du CNRS. For Peace de Thom Yorke pour tourner la première page de cette émission. On va laisser derrière nous les atomes et remonter dans un instant dans le temps de nos ancêtres Homo sapiens. Il est l'heure à présent de l'entretien archéologique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Une étude d'octobre 2024 montre qu'au paléolithique supérieur, les enfants atteignaient l'adolescence à peu près au même âge qu'aujourd'hui. Le 12 décembre 2024, une autre étude suggérait quant à elle que des enfants avaient peint sur les murs de la grotte ornée de Las Monedas en Espagne. Ces découvertes nous éclairent non seulement sur notre évolution, mais aussi sur la place des enfants dans les groupes de chasseurs-collecteurs il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, une place sans doute importante, mais dont on peine à définir les contours. À ces études récentes s'ajoute la parution aux éditions Synops d'un livre qui cherche justement à comprendre qui étaient les enfants du paléolithique, à quoi ressemblait leur vie et quelle était leur place dans les groupes d'Homo sapiens. Pedro Lima, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, auteur spécialisé dans la préhistoire et dans l'art pariétal. Vous êtes l'auteur de ce livre que j'évoquais à l'instant, intitulé Paléo Kids, l'enfance de l'humanité. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette enfance mal connue dans les communautés de nos très lointains ancêtres chasseurs-collecteurs. Cette émission, on va la faire partir d'un constat assez simple, l'expression « homme préhistorique à la peau dure ». Alors si aujourd'hui, la recherche s'intéresse de plus en plus à la place des femmes dans les groupes de chasseuses et de chasseurs-collecteurs du paléolithique, il reste une sorte de zone d'ombre qui entoure les enfants de cette époque. Alors, Pedro Lima, comment on peut expliquer cette impensée paléoanthropologique de l'enfance, de l'humanité, et comment expliquer que les enfants arrivent à se cacher encore ?
Merci pour votre invitation. Peut-être que une des raisons, voire la principale, c'est que ces enfants qui ont vécu il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans en Europe occidentale, dans ces sociétés donc de chasseurs-collecteurs, nomades, ont laissé peu de traces matérielles derrière eux. Donc il faut peut-être pas trop jeter la pierre sur des générations de préhistoriens surtout, puis de plus en plus de préhistoriennes qui ont essayé de déterminer, caractériser au mieux les structures sociales et donc l'éventuelle place de ces enfants, parce que ils réalisaient tout simplement peut-être des gestes qui ont laissé derrière eux moins de traces. Il n'est pas non plus impossible, ça il faudrait poser la question directement aux principaux intéressés, que parfois le rôle de ces enfants soit apparu peut-être comme moins noble, moins digne d'intérêt et donc de recherche, de caractérisation que les gestes de leurs aînés, des adultes, les très beaux outils en silex taillés, les feuilles de laurier solutréennes, voire les très belles peintures, dessins et gravures réalisées dans les grottes ornées. Néanmoins, je veut souligner que dans des études déjà anciennes, la place des enfants a été discutée quand des traces ont été révélées. Au tout début du XXe siècle, on est en 1910-1920, dans une grotte qui s'appelle le Tuc d'Audoubert, un chercheur de l'époque, le comte Henri Bégoin, qui est aussi propriétaire de ce lieu, repère des empreintes de pas d'enfants. Et il se pose très tôt la question du pourquoi de la présence de ces enfants. C'est une question qui taraude toujours les spécialistes, hein, on y reviendra. Si on parle d'un site d'habitat, Pincevent, qui est un site très célèbre pour l'archéologie française, étudié à partir des années 1960 par André Leroy-Gourhan, toujours en cours d'étude, avec des générations de chercheurs qui ont retrouvé les traces de manière tout à fait saisissante, d'ailleurs je trouve, de gestes de la vie quotidienne de ces groupes de magdaléniens, puisque c'est une période relativement récente du paléolithique supérieur. Bah, si on lit leurs travaux, par exemple la somme que constitue un livre qui s'appelle « Un automne à Pincevent », puisqu'en fait c'était des habitats saisonniers, pas loin de la Seine, hein, on est en Seine-et-Marne, et bah, l'occurrence du mot « enfant » apparaît de très nombreuses fois dans ces textes. Donc ce que je veux dire, c'est que quand la présence de ces enfants a pu être déterminée, caractérisés, les scientifiques ne s'en sont pas volontairement détournés.
Est-ce que peut-être aussi le fait qu'on regarde ces enfants du paléolithique d'une certaine façon, d'une façon anachronique, et qu'on les voit peut-être comme on perçoit nos enfants aujourd'hui dans les sociétés humaines, où on les voit peut-être plus dans un rôle, on va dire, de passif, on va dire de récipiendaire d'un savoir, d'une éducation, d'un apprentissage, on tord la réalité d'une certaine façon.
C'est possible, et toutes les générations de scientifiques spécialistes du paléolithique supérieur, je pense que ça vaut pour pas mal de sciences, sont conditionnés par un bain culturel, cognitif, social, dans lequel eux-mêmes évoluent, qu'ils ont eu tendance, même parfois à leur corps défendant, en essayant d'éviter ce type de biais, mais on peut se rendre compte, peut-être a posteriori, que ces biais ont existé. Donc il est fort possible, par exemple, que des générations de chercheurs plutôt masculins, dans la première partie du XXe siècle, voire même dans l'immédiate après-guerre, eux-mêmes baignés dans un monde où les rôles entre l'homme et la femme, par exemple, étaient extrêmement déterminés, et la place de l'enfant, comme vous le disiez, relativement secondaire, aient pu projeter cette vision sur les campements et sur les grottes. Or, et c'est vraiment moi ce qui m'a passionné dans l'écriture de ce livre, les enfants ont vraiment joué un rôle.
C'était la question que je comptais vous poser, Pedro Lima.
Nombreux. Ouais. Et finalement, c'est une image assez nouvelle qui émerge de ces sociétés.
Quel est le point de départ d'un livre comme celui-ci? Parce que vous vous attaquez quand même à quelque chose d'ardu. Il y a peu de traces, il y a peu de preuves de la présence de ces enfants. Alors bien sûr, tout le monde a été dans ces sociétés-là un enfant à un moment donné.
Mais, une évidence biologique.
Oui, c'est ça. Comment vous êtes saisi de ce sujet-là?
D'abord, je précise que je le fais en journaliste scientifique et non pas moi-même. Non pas moi-même en tant que producteur de savoir, donc je vais aux sources de toutes ces recherches, de toutes ces publications. Mais en fait, le point de départ du livre, pour moi, c'est une émotion, et c'est souvent le cas dans mon travail de journaliste scientifique, quand il devient un travail d'auteur, quand je publie des livres. L'émotion, en l'occurrence, c'est celle que j'ai ressentie à plusieurs reprises dans différentes grottes, parce qu'on part quand même de la grotte, même si dans le livre, je sors de la cavité pour aller vraiment sur les lieux de campement et d'habitat où ils ont passé le plus de temps, parce que rappelons qu'ils ne vivaient pas dans les grottes. Ces humains fréquentaient les cavités pour aller y faire essentiellement des gravures, des peintures et des dessins. Et donc, dans plusieurs de ces grottes et de ces cavités ornées, on peut citer Pêche-Merle, on peut citer Gargasse, on peut citer la grotte Chauvet, que j'ai eu la chance de visiter à deux reprises dont on célébrera l'anniversaire des 30 ans de la découverte mercredi prochain. Il y a des traces de ces enfants. Dans la grotte de Gargasse, par exemple, il y a une empreinte de main négative d'un tout petit enfant dans un diverticule reculé de la cavité.
Ce qui signifie qu'on a posé la main de ce bébé sur la paroi et que son parent les adultes ont soufflé des pigments sur cette petite
main. Pour qu'on laisse l'empreinte de la main de ce bébé introduit dans cette grotte, dans une des paléofictions, puisque mon livre est basé sur un mix de paléofictions et de documents scientifiques avérés. Je raconte cette incursion d'un groupe, famille élargie, dans la grotte de Gargasse, en me posant aussi évidemment la question du pourquoi. À Chauvet, il y a des pommes d'empreintes de main, des empreintes de pommes de la main qui ont été déposées sur les parois à l'ocre rouge, et plusieurs d'entre elles ont appartenu à un ou une adolescente. Toujours dans la grotte Chauvet, ça je ne l'ai pas vu parce que c'est très loin dans la cavité, dans une galerie qui s'appelle la Galerie des Croisillons. Il y a une double piste de pas d'un jeune adolescent, voire d'un enfant, accompagné de pistes de pas d'un canidé, qui peut laisser penser à un éventuel apprivoisement de ce loup, très vraisemblable, par un jeune humain. Voilà, donc le point de départ, c'est ces émotions, cette fascination, et puis tout de suite le questionnement.
La délicatesse aussi de ces traces que laissent les enfants, traces qui, paradoxalement, sont parfois mieux conservées, alors elles sont peut-être moins nombreuses, mais mieux conservées que celles des adultes.
Dans les grottes, rappelons que la grotte Ornée est un cas exceptionnel de conservation du passage des humains à des périodes très anciennes. Et c'est exceptionnel, la grotte Ornée, parce qu'on n'a jamais un tel niveau de protection et de conservation de ces archives sur les sites d'habitat, qui sont des sites en extérieur, souvent au pied d'abris sous roche. Donc, effectivement, c'est aussi frappant de noter qu'il y a plus proportionnellement d'empreintes d'enfants pour les pas d'enfants au sol dans les grottes, que d'empreintes d'adultes. Pourquoi ? Vraisemblablement, d'abord parce qu'ils ont été relativement nombreux à y aller, en tout cas dans un nombre significatif, mais aussi et surtout parce que ces empreintes se sont mieux conservées, parce que ces enfants, dans ces grottes, allaient parfois seuls dans des endroits très reculés, très éloignés du centre des diverticules et des couloirs, dans des recoins aussi des cavités, loin de l'entrée, et écartés des zones, par exemple, ornées vraisemblablement plutôt par des adultes. Et donc, ces empreintes-là se sont mieux conservées que celles laissées par les pieds, les pas des adultes, qui, eux, avaient tendance à rester plutôt dans des zones plus accessibles des cavités, donc dont les empreintes se sont ensuite été effacées par des passages ultérieurs ou par des écoulements d'eau ou par des passages d'animaux. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a un nombre significatif de ces empreintes, encore une fois, dans des endroits très écartés, très reculés de ces cavités, parfois seuls, donc des enfants sans adultes, qui posent quand même la question du pourquoi de leur présence. Il y a eu beaucoup d'hypothèses avancées, comme je vous le disais. Hein. C'est une question que des préhistoriens se sont posées déjà il y a longtemps. Alors, on a avancé l'explication de rites initiatiques, par exemple. Voilà, on pensait qu'il fallait que les enfants, à tel âge, lors du passage d'une borne, par exemple de le passage de la puberté, comme on le disait tout à l'heure, aillent prouver leur courage en allant très profondément sous terre. C'est pas complètement impossible. Sophie Archambault de Beaune, qui est une préhistorienne française, qui est une de celles qui met le plus en avant le rôle, la place des enfants dans les sociétés du Paléolithique supérieur, dit que parfois, quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à un endroit, par exemple une grotte ornée, on a tendance à mettre ces gestes-là sur le compte du rite ou du sacré. Il est possible, tout simplement, que ces enfants aient été là pour accompagner des adultes. Rappelons qu'on est dans le cadre d'un art pariétal qui s'est transmis pendant 25 000 ans. 25 000 ans, c'est très très long. Et ça nécessite donc de la transmission de connaissances, de techniques, de savoir-faire. Peut-être que ces enfants dont on a retrouvé ces traces étaient tout simplement là en train d'accompagner des adultes, sachant, experts donc des réalisations, des peintures, des bisons dont on a tous ces magnifiques images en tête, et que peut-être après avoir terminé une petite leçon peut-être d'art pariétal, eux allaient explorer la cavité. On a retrouvé des traces de jeu, ça c'est frappant. Je vous ai pas parlé tout à l'heure de la grotte de Pechmerle dans le Lot. Il y a des empreintes de pas qui montrent que par moment les enfants ont un petit peu, comment dire, batifolé, vous savez, en mettant leurs pieds comme ça dans des mares qui s'étaient formées au sol, et on retrouve, et c'est très émouvant, les traces de leurs petits pas. On a retrouvé dans certaines de ces grottes, associées à des traces de pas d'enfants, des boulettes d'argile qui ont été un petit peu modelées, prélevées comme ça sur les sols, sur des banquettes argileuses, et qui ont été projetées au plafond, à la voûte, et certaines
comme
se sont collées.
Comme le font les cancres aujourd'hui encore dans les classes.
Pas que les cancres. Comme le font les enfants à l'esprit taquin. Et ça, ce que ça nous dit, et c'est quelque chose qui, évidemment, me touche et me fascine, c'est que, mais c'est pas étonnant, c'était des Homo sapiens comme vous et moi. Attention, hein, on est vraiment dans le cadre de notre espèce. C'est Homo sapiens qui a réalisé et qui a investi ces cavités ornées. Ils avaient les mêmes caractéristiques que les enfants d'aujourd'hui, curieux, peut-être espiègles, et puis ils avaient envie de jouer tout simplement.
Mmh. On parle beaucoup de traces de pas, il y a aussi des traces de mains, et des traces de mains qui, là, à nouveau, on en revient au registre de l'émotion, Pedro Lima, moi je pense à ces traces de toutes petites mains qui généralement apparaissent au plafond et qui suggèrent que on a porté à bout de bras un enfant pour qu'il en mette sa main et son empreinte dans l'argile.
C'est le cas dans la grotte Cosquer, près de laquelle je vis. D'ailleurs, j'habite dans les quartiers sud de Marseille, pas très très loin de la grotte Cosquer, dans le massif des Calanques. Et c'est vrai que dans cette grotte, une des découvertes les plus émouvantes, c'est celle d'une toute petite empreinte, effectivement, de main d'enfant. Cette fois-ci, c'est pas une empreinte de main négative. Simplement, on a une situation qui a été reconstituée, puisque cette empreinte est située à 2,20 m environ de hauteur sur une paroi recouverte d'une substance molle qu'on appelle le Mondmilch, le lait de lune en allemand. Une empreinte de main d'un enfant qui a posé sa main et qui en a laissé donc l'empreinte, cette fois-ci en positif, sur ce substrat très, très, très meuble. Peut-être que l'enfant était tout simplement sur les épaules d'un adulte en train d'être transporté dans la grotte et qu'à un moment donné, il s'est appuyé. Dans une autre cavité que j'ai visitée à plusieurs reprises, la grotte de Rouffignac en Dordogne, qui est une cavité qui se visite, qui est ouverte à la visite au public, cette fois-ci, c'est pas des empreintes de mains, c'est des tracés digitaux, c'est-à-dire des traces de doigts, de tout petits doigts qui forment des sortes de macaronis comme ça, de spaghettis un petit peu de toutes les
comme
formes sur les parois.
Dans la neige, exactement. Du doigt ou dans le sable. Ouais.
Et là, ce sont des enfants qui, tout simplement, en train d'avancer dans la cavité, ont peut-être laissé passer leurs doigts et ont été un peu amusés par le résultat comme ça de ce geste sur les parois. Et comme vous le disiez, dans la grotte de Rouffignac, il y a un endroit où on est certain que un de ces enfants a dû être hissé à bout de bras pour aller déposer comme ça l'empreinte de ses doigts sur une voûte qui lui était inaccessible. Encore une fois, la question du pourquoi de la présence de ces enfants. Il y a des préhistoriens qui ont avancé l'hypothèse qu'ils participaient tout simplement à la réalisation du décor orné. Robert Bednarik, par exemple, on peut citer son nom. C'est pas du tout une opinion qui est partagée par une majorité des spécialistes qui étudient l'art pariétal. Néanmoins, il faut quand même avoir en tête qu'on retient souvent ces images fabuleuses des, par exemple, chevaux, bisons félins de la grotte Chauvet ou les grands taureaux de Lascaux, qui sont des œuvres d'art tout à fait époustouflantes et qui, évidemment, sont l'œuvre de grands maîtres, des artistes parfaitement accomplis. Hommes ou femmes, on sait que des femmes ont investi et ont laissé leurs traces, leurs marques de main en particulier, sur les grottes ornées. Mais on oublie quand même que l'art pariétal, ce sont des dizaines de milliers d'entités graphiques, de figures, parfois des signes géométriques relativement peu maîtrisé du point de la graphie, un art non figuratif aussi. Vous parliez de la grotte de Las Monedas qui a donné lieu à cette très intéressante étude. Il n'est pas impossible de concevoir que certaines de ces figures aient été réalisées par des enfants, parce qu'elles ne nécessitent pas la maîtrise technique, le projet graphique pour les réaliser. Donc on n'a pas la réponse, mais en tout cas les enfants étaient là, ça c'est certain.
Et là encore, Pedro Lima, dans ce que vous évoquez, on est prisonnier de certaines représentations. Il faudrait que ce soit les hommes qui aient peint pendant que les femmes étaient en dehors de la grotte avec les enfants. Or, voilà, la réalité nous dit que c'est bien bien différent pour ces périodes paléolithiques. Alors on l'évoquait en introduction de cette émission, la difficulté à dessiner les contours de l'existence et du rôle de ces enfants dans les groupes sociaux, de ces chasseurs-collecteurs du paléolithique. On va essayer de faire ensemble le parcours d'un enfant de sa gestation jusqu'à sa naissance.
La conception même,
sa conception,
si vous voulez.
Bah oui, parce que tout ça est documenté malgré tout dans ces rares traces que nous laissent les paléolithiques. Si on refait la chronologie de la vie d'un enfant jusqu'à la fin de son adolescence, ça ressemblait à quoi grâce à ce que l'archéologie nous enseigne.
Concernant la conception, les gens qui ont laissé des images dans les cavités, on sait que c'est beaucoup d'animaux, il y a aussi des représentations du corps humain, et quand il y a représentations du corps humain, elles sont partielles, il y a des mains, bien sûr, on en a parlé, mais il y a des représentations sexuelles. Donc il y a majoritairement des sexes féminins qui sont représentés dans l'art pariétal, et aussi dans l'art mobilier, du terme mobile que les gens transportaient, donc sur des petites plaquettes gravées et sculptées. Donc beaucoup de représentations de sexe féminin, des représentations de sexe masculin aussi, un phallus extrêmement explicite dans la grotte Cosquer à Marseille. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait quand même un questionnement autour de la question, on va dire, peut-être pas de la sexualité, mais du dualisme masculin-féminin, et c'est très clairement inscrit dans ces images. On a des images sur des plaquettes gravées de copulation humaine. Donc l'acte sexuel est reconnu comme tel et il est représenté. On a toute une iconographie dans l'art pariétal et dans l'art mobilier de la représentation du corps féminin gravide, enceinte. On peut parler du roc aux sorciers dans la Vienne, par exemple, avec des représentations de corps féminin sculpté très explicites enceinte. Et on a même une étonnante représentation dans un réseau qu'on appelle le réseau Guy Martin, près de la grotte de la Marche dans la Vienne, d'une possible représentation d'accouchement. C'est-à-dire, on voit un bébé sortir d'une sorte d'anfractuosité qui rappelle un sexe féminin. Donc, tout ça, c'est quand même, ça veut dire que ils avaient ça, en tête et ils le représentaient. Le bébé naît, évidemment, il va au sein maternel ou au sein d'une nourrice. On pense, et ça, ça se fait aussi sur la base de comparaison avec des groupes de chasseurs-collecteurs connus qui ont vécu encore jusqu'à des périodes relativement récentes, peut-être que c'était pas toujours la mère qui nourrissait l'enfant né, d'autant que la mère pouvait mourir. Il y avait une mortalité maternelle et une mortalité infantile très importante. On estime qu'un tiers environ des enfants naissaient avant, mouraient avant l'âge d'un an, et puis un tiers à nouveau des individus mouraient, on le suppose, entre l'âge de un an et de 20 ans. Donc il y avait une très forte mortalité. Néanmoins, l'enfant grandit. Le sevrage, il semble qu'il soit intervenu relativement tard. Ça, c'est sur la base de l'analyse d'isotopes. On parlait du tableau de Mendeleïev tout à l'heure, d'isotopes du zinc du calcium dans l'émail dentaire de certaines dents de ces enfants. Et on a pu montrer que le sevrage ne se faisait que à ces époques-là autour environ de l'âge de 4 ans, ce qui est relativement tard. Et on sait qu'une femme qui allait a moins de chances de tomber enceinte à nouveau d'un nouvel enfant. Donc l'image que ça nous renvoie, aussi lié à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'âge de la puberté, relativement proche de celui qu'il est aujourd'hui, c'est très loin des idées reçues, un nombre d'enfants par femme pas nécessairement très très élevé, 3, 4 ou peut-être 5, un écart entre les naissances relativement
Ces populations sont
important.
Nomades en plus. Donc
ces populations sont nomades. Ça pose la question de la libération des mains de ceux qui s'occupaient des bébés. Et ça, on a une très belle preuve d'un porte-bébé sur le dos d'une femme, sur une tablette gravée, sur un site allemand qui s'appelle Gunnersdorf. Et donc, on est vraiment loin de l'image, en tout cas, par exemple, de mère entourée de ribambelles d'enfants. C'est ce que dit très bien Sophie Archambault de Beaune dans ses articles. Les femmes donc participaient pleinement à la vie sociale, économique, productive du groupe, et vraisemblablement les enfants aussi, même si les traces sont difficiles à retrouver.
Alors vous parlez du groupe, c'est hyper important aussi. Nous, on a une représentation de la famille qui est une représentation très, très contemporaine et qui n'est absolument pas applicable à ces communautés, on va dire, de gens du paléolithique supérieur. Quelle place occupaient ces enfants dans ces groupes-là, puisque là, on comprend bien qu'ils pouvaient être, on pouvait s'en occuper, qu'on soit un parent directement biologique ou bien un parent
oncle, proche, tante, grand-mère quand il y en avait, c'est-à-dire des femmes qui arrivaient jusqu'à un âge suffisant pour être grand-mère. Je reviens au site de Pincevent, c'est très émouvant de voir comment sur ce site des unités d'habitation ont été retrouvées par les archéologues et ils arrivent à individualiser le nombre d'humains présents dans chaque unité d'habitation. Alors ce qui est frappant, il y a des graphiques qui montrent que dans certaines unités d'habitation, on est sur une famille presque de type occidental moderne, papa, maman et un ou deux enfants, en tout cas deux adultes et un ou deux enfants, et dans d'autres unités d'habitation un peu plus vastes, et là on est vraiment dans ce qu'on appelle une cabane, une habitation, avec des foyers, ateliers de taille et ainsi de suite autour, on a beaucoup plus d'individus. Donc des familles plutôt élargies, qui sont plus proches du modèle ethnographique, par exemple chez les chasseurs et éleveurs de rennes, En Sibérie, des familles réunies en fait avec plusieurs adultes et plusieurs enfants. Sur ce site de Pincevent, on a des témoignages d'ateliers d'apprentissage. Parce que donc en fait, l'idée, l'image qui ressort de ces enfants, c'est que c'est des enfants qui s'autonomisent très tôt. Et c'est là qu'il y a des différences avec l'enfance, on va dire, d'aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une nécessité.
Il faut qu'ils participent à la vie du groupe.
Il faut qu'ils apprennent très vite, dès qu'ils sont en âge de le faire, les gestes indispensables à la survie dans un contexte, période glaciaire, mégafaune, dont des carnivores qui peuvent être dangereux, maladies, accidents et ainsi de suite. Bon, on vit quand même pas dans le monde des bisounours, même si c'est pas l'âge de glace avec une banquise partout, c'est une steppe avec des graminées et ainsi de suite. Et donc dans ce contexte-là, on estime que très jeunes, les enfants apprennent les gestes indispensables à la survie, en particulier la taille des silex. Et sur Pincevent, on a la preuve archéologique de l'existence d'ateliers d'apprentissage actifs, non pas uniquement par observation du novice du travail de l'expert tailleur de silex à partir d'un rognon de silex, mais en trois étapes, par exemple, taille d'un silex de manière très imparfaite par un novice vraisemblablement très jeune, démonstration par un expert puisque les éclats de cette démonstration experte arrivent au-dessus des éclats inférieurs, puis on renouvellement de la tentative du novice qui, cette fois-ci, réussit mieux ses gestes de taille. Ça, c'est très émouvant et ça nous dit ce qui, à la fois, est une évidence, comme dans le cas de l'art pariétal, il fallait qu'ils apprennent. Qui dit apprentissage dit atelier, dit voilà, communication entre un expert et un novice. Mais là, on en a des preuves très émouvantes.
Là, on a vraiment une classe de taille de pièces taillées. On évoquait aussi le fait que peut-être les enfants participaient à la vie du groupe pour les nourrir et via des gestes qui, eux, ne laissent pas de traces, comme la collecte de baies, de tout type de végétaux. Là aussi, on ne peut pas savoir qui s'occupait de ces fonctions-là ou de la pêche de petits poissons, par exemple. On évoquait tout à l'heure le jeu. On a retrouvé aussi, je crois, en République tchèque, des petits jouets ou équivalents de petits jouets qui auraient été fabriqués par des mains d'enfants, et ça, c'est attesté.
Il y a nombreux, il n'y en a pas énormément, mais il y a des objets qui ont été retrouvés sur des sites d'habitat qui sont de petite taille. Alors, petite taille ne veut pas toujours dire associé à un enfant ou à un jeu. Bon, il y a des adultes qui se passionnent pour les miniatures de voitures, c'est pas pour autant des enfants. Néanmoins, c'est quand même un critère qui permet d'associer l'existence d'un objet à l'appartenance à un enfant et à un possible jeu. Donc des petits harpons, de toutes petites lampes à graisse, mais quand je dis petites, de 7 à 10 cm de long, qui quand même semblent avoir été plutôt destinées, peut-être fabriquées par des adultes, des enfants. Il y a des objets tout à fait fascinants qu'on pourrait appeler des tomatropes préhistoriques, qui sont des rondelles en os découpées dans une omoplate de renne et sur les deux faces desquelles ont été très finement gravés le même animal dans deux positions différentes, percées d'un trou, et donc il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées, qui ont montré qu'en faisant pivoter avec un cordon ces petites rondelles, avec un phénomène de la persistance rétinienne, qui est un phénomène biologique connu, on avait l'illusion du mouvement qui était généré. Ça a été interprété comme des objets presque de rite, pourquoi pas imaginer que c'est tout simplement des jouets optiques qui ont servi à des enfants. Sur les sites de l'Est de la République tchèque, de Pavlov et Vestonice, donc il y a des petites figurines animales qui représentent des animaux qui ont été retrouvées parmi d'autres figurines d'un peu plus grande taille. Ce qui a attiré l'attention des spécialistes, alors d'abord il faut dire que c'est les origines de la céramique, c'est-à-dire que c'est des objets en argile, plutôt une sorte de limon qui a été malaxé, mélangé à de l'eau, auquel on a donné une forme volontairement anthropomorphe, humaine ou animal, et qui ont été volontairement cuits en étant posés auprès de foyers. On en a retrouvé encore posés auprès du foyer des millénaires après avoir été cuits. Eh bien, certains de ces objets sont parfaitement réalisés. On en retrouve dans des sépultures. D'autres sont, au contraire, imparfaitement réalisés, avec des gestes beaucoup moins assurés, avec une dissymétrie, une asymétrie entre les différentes parties de ces objets, sans intentionnalité en termes de production d'un objet utile, puisqu'ils ont été parfois abandonnés. Et tout ça conduit les spécialistes qui les ont étudiés à avancer l'hypothèse qu'ils ont été faits par des enfants, qu'ils s'en sont servis pour apprendre et apprendre en jouant. Et on a en plus, et c'est fascinant, très émouvant, retrouver les empreintes digitales de leurs petits doigts sur ces objets. Donc on sait que des enfants ont modelé ces figurines animales.
Vous parliez tout à l'heure, Pedro Lima, de l'importante mortalité infantile. Est-ce qu'on a une estimation de la présence de ces enfants dans ces groupes? Quelle proportion d'enfants constituaient ces groupes?
La paléodémographie est une science extrêmement complexe parce que ce qui nous est parvenu en termes d'ossements fossiles n'est qu'une partie infime de ce qui a existé. Et il a peut-être existé, y compris, des choix les personnes qui étaient inhumés et dont les fossiles nous sont parvenus. En plus, les fossiles d'enfants se sont beaucoup moins bien conservés que les squelettes d'adultes. Donc, il y a une estimation qui est plutôt basée sur des comparaisons avec des groupes de chasseurs-collecteurs connus plus tard dans l'ethnographie, selon laquelle on avance que 40%, voire plus, peut-être une moitié d'un groupe, donc d'un campement de chasseurs-collecteurs qui ne devait pas contenir plus d'une petite centaine d'individus, était composé d'enfants. Donc ça voulait dire beaucoup d'enfants. Moi, j'imagine quand même aussi leurs cris, parfois leurs chants. On sait qu'il y avait des instruments de musique à cette époque-là. Je les imagine pas toujours uniquement en train de travailler, tailler le silex. Donc on imagine aussi leur vie un petit peu ludique, leur vie secrète. Il y avait des endroits, à Pincevent, ça a été démontré, où ils se regroupaient, on appelait ça peut-être des petites cachettes de l'époque, pour faire des petits jeux. Donc des campements sur lesquels ils étaient nombreux en tout cas.
Alors Paléo Kids, c'est le titre de votre livre, Pedro Lima. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'en plus, vous évoquez ce fait très émouvant, c'est le fait que toutes ces grottes ornées ont majoritairement été redécouvertes par des enfants qui font le trait d'union avec ces enfants du Paléolithique. Merci beaucoup à vous d'être venus.
Merci beaucoup.
Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Vincent Charpentier, Eve Etienne, Sandrine Chaperon, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Noé Chaban aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.